Aujourd'hui, dimanche 7 avril, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Cette semaine, on a quand même appris la démission du président Bouteflika. Oh ben ça, à force de gueuler, démission, démission, ils ont fini par l'user, le pauvre vieux. Il était pas fringant, ok, mais là, à force d'insister, il a fini par croire qu'il était plus capable de mener le pays. Pourtant, oui, il était encore capable. Ah, Bouteflika, c'est pas le genre de mec à se laisser emmerder ou diminuer par un AVC. Ça faisait 3 ans qu'il disait rien et qu'il bavait sur sa chemise, mais il en pensait pas moins. Bref, l'Algérie perd un grand homme. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé. Eh ben, je vais vous dire une bonne chose. Quand je me promène dans les couloirs de Radio France, c'est pas la première impression qu'on a, hein, franchement. Ici, le dimanche, tu croises un tel ramassis de souffreteux. Elle devrait être interdite, cette journée de la santé. C'est ridicule. Je peux vous dire que Bouteflika, il a l'air plus en forme que la plupart de mes collègues. Bref, ça suffit pour les mauvaises nouvelles. Attention, oh les cœurs, les amis, aujourd'hui est un jour béni. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une très grande dame. Une bête de scène. Aujourd'hui, elle a 72 ans. Bon anniversaire, Michel Thor. Ah, Michel Thor, nom de Dieu. Et cette chanson, quelle chanson. Quand j'étais ado, je peux vous dire que j'en ai emballé de la carte vermeille là-dessus. Hein.
Et tu continues.
Je me gêne pas. Mais c'est la carte vermeille qui veut le foutre de moi. Autre anniversaire d'une bête tout court cette fois. Bon anniversaire, Franck Ribéry. Oui, Franck Ribéry. 36 ans, le footballeur bavarois au visage cubiste. Alors, lui aussi, il en a emballé de la famure, sauf que lui, il les a vraiment emballés dans du plastique après les avoir butés. Ah là là, mais dis donc, ça m'a l'air d'être très très bon ce dimanche 7 avril.
Vous les femmes.
Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, émission podcastable à volonté, évidemment les amis. Pour m'accompagner, l'homme qui a un avis sur tout, mais surtout de bon goût. Comment allez-vous, cher Albert Algo?
Écoutez, je vais d'autant mieux que vous venez de me flatter terriblement. Je voudrais revenir quand même sur l'homme dont on a entendu la voix, c'était Ribéry, mais c'était surtout Franz Lang. Mon idole, un immense chanteur bavarois qui yodelise à merveille.
Et nos invités en ce dimanche 7 avril sont...
France Inter, Vous les femmes... Daniel Morin.
Artiste glitter, sexy, funky, protéiforme, elle est chanteuse, comédienne, auteure. Elle nous offre un album qui, au chapitre fraîcheur et art de vivre, nous a tous mis en joie autour de cette table. Moi, la dernière fois qu'un artiste m'a autant donné envie de danser, c'était en 87. Avoir un seul enfant de toi, c'était Phil Barnet. Sur la pochette de son album, eh oui, elle nous lance au visage sa coupe de cheveux à mi-chemin entre la permanente et le mulet, le... Père Mulet. Vous l'aurez compris, on a adoré ce premier album intitulé « Un air de fête ». Bonjour et bienvenue à vous, Corinne.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Mais très très bien.
Ah, c'est une réelle joie de vous avoir.
Ah bah, pour moi aussi.
Franchement. Ouais, c'est génial cet album, on a tous aimé. Alors, la réalisatrice de cette émission, qui est la vraie patronne de cette émission, Marie-Annick Rabault, était comme une folle.
Elle danse d'ailleurs.
Elle est en feu.
Elle se tortille, elle en peut plus. Et nous aussi, on a trouvé ça génial. On est ravis que vous soyez là, on va parler de l'album, évidemment, de vos projets, de vos influences, de votre air quelquefois un petit peu bizarre, branché, sexy, enfin de tout ça.
D'accord, très
ravi.
Bien.
Ravi. Face à vous, Corinne, une comédienne drôle, belle, naturellement talentueuse, et ce... Dans tous les registres, la France l'a découverte avec l'accent du Nord aux côtés de Danny Boone.
Ah, ça y est, pas de Jimmy.
Oh putain.
Bravo Biloute.
Ça veut dire quoi Biloute?
Je veux dire petite quéquette.
Petite quéquette?
Non, ça n'a rien à voir avec le quéquette, hein. C'est juste affectueux.
Juste affectueux. Rien à voir avec le quéquette. Elle vient nous voir pour Chamboule tout le dernier film.
Jamais une personne à sa quéquette.
Jamais. En salle depuis mercredi dernier, qui a eu un très très bon départ, il faut le souligner. Bonjour et bienvenue à vous, Anne-Marie Va.
Bonjour.
Comment ça va?
Il était bien ce bonjour ou pas?
Il était bien.
Je vais en faire un mystérieux. Bonjour.
Sexy.
Je l'ai dit tout
très
à l'heure,
sexy,
toutes
hein.
les facettes. Hein.
Ben
vraiment,
voilà,
je peux tout maîtriser
faire.
Tout.
Je peux tout faire.
C'est quoi l'étape d'après quand on maîtrise tout comme ça?
Eh ben, je sais pas. Il faut que je commence l'escroquerie ou alors il faut que j'écrive une bio.
Mmh. Ouais, ou je crois, hein. Un duo avec moi.
Ah,
pas mal,
très
ça.
Très bonne idée, ouais. Corinne.
Je pense, un peu de chanson.
Et je pense qu'on peut revenir ici pour faire un featuring.
C'est une super idée.
Ah ouais, avec j'adorerais.
Vous. Ouais, tous
Anne et Corinne.
Oh ouais, pas mal. Anne et Corinne, c'est déjà très très bien.
Ouais, c'est un titre de chanson.
Ça fait salle des fêtes à Châteauroux, mais moi, là, je suis client avant que ça sorte. Alors, c'est une présentation que je viens de faire qui est, je le reconnais, un peu sommaire. Pour vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami, cousin d'un ancien et surtout célébrissime ministre de la Culture. C'est à vous, John Jack Lang.
Hello, you the women, et salut à tous les autres. Une fois de plus, cher Danny, vous m'épatez.
Oui.
m'enchanter, oui. contenter,
oui,
ravigoter,
oui.
m'exciter, m'éclater, oui. me gâter, me...
Mais Jean-Jacques, il faut vous hâter sans hésiter, respecter nos invités qui vont s'impatienter.
Mais ne soyez pas taquin, cher Daniel.
Oh.
Si vous me voyez si heureux, c'est grâce à vos invités qui rendent hommage à ma passion essentielle, celle de la fête.
Vous êtes sûr, Jean-Jacques ?
Mais enfin, Danilo, avez-vous seulement préparé cette émission ?
Oh, Gigi, vous êtes blessant.
Mais pardon, pardon, Dani chéri, loin de moi de vouloir vous offenser. Je sais quelle est votre attention, application.
Oh, c'est reparti.
Implication dans cette émission, que des trucs anciens. Et je suis sûr que ce que Anne-Marie Pain,
oui.
Corinne
oui.
et moi-même, nous avons en commun, ne vous a pas échappé.
Est-ce que vous pouvez préciser mieux que je ne le ferai ?
Corinne a intitulé son album « Un air de fête ». On ne peut pas faire plus festif. Anne-Marie Vin interprète Nadia dans « Chamboule tout », qui, comme vous le savez, tire son nom d'un jeu de fête foraine. Quant à moi, outre ma passion pour la culture, comme mon cousin Jack, je me passionne pour la fête. Donc vous devriez, Daninou, la teuf et encore la teuf. Alors je sais, vous me direz, ok, l'univers acidulé, pailleté, peroxydé de Corinne, ses références et ses chorés disco-funk électro, et puis sa collaboration avec Dorian Fizel, qui jadis mixa chez mon amie Régine, au Queen, au Bus Palladium, au Banana Café. Tout ça est éminemment festif et fait d'ailleurs les délices de mon autre ami, François François.
Ah bah justement, surprise, le voici, le voilà.
Salut les amis, je me présente, François François. Je suis la synthèse de tous les François. Claude François, Frédéric François, François Valéry, Jean-Pierre François, François Venman, François de Gelt, François Hardy, François Perrault. Ah non, pas lui, je me cours. Corinne, depuis Niagara, l'Irita Madonna, il se passait plus rien dans la chanson. Heureusement te voilà, tu es Wiz, tu es ma fille spirituelle. Et comme je vais bientôt crever, je te laisse toute ma fortune. Seul petit problème, du fric, j'en ai pas. Allez, salut les amis, bonne émission.
Dommage, vous êtes passé à côté de la fortune.
Complètement.
Maquillage, Corinne, ben on l'écoute tout de suite dans Vous les femmes, sur France Inter. On est ensemble jusqu'à 18h.
Oh,
On vient d'écouter Maquillage de Corinne.
Vous les femmes.
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui ? Les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
Avec Corinne pour son premier album, Un air de fête. Un album Polydor Universel sorti le 16 novembre dernier. À noter que Corinne est en tournée. La prochaine date, c'est à Lyon le 11 avril. C'est dans 4 jours. Toutes les autres dates sur le site de l'émission. Bien entendu, avec nous également Anne-Marie Vin pour le film Chamboultou d'Éric Laven, sorti il y a 4 jours, avec entre autres Alexandra Lamy, José Garcia, Michael Youn, Mehdi Sadoun, Michel Villermoz ou encore Olivia Cotte. Mesdemoiselles, nous allons revenir sur quelques dates qui ont émaillé vos brillants parcours. Mm-hmm. On commence par vous, Anne, si vous le voulez bien.
Allez-y. Ouais.
1992, le cours
J'étais
Florent.
J'étais pas née. Donc, déjà, ça commence très très mal.
Je me suis trompée de merde.
Il est d'une élégance.
Non, je ne vais pas la refaire systématiquement. Non, j'étais née.
C'est vrai que c'est bien fait à chaque fois. Donc, ouais. On a envie que ça revienne. Ouais. À peine. Donc.
Alors, ouais, effectivement, je rentre au cours Florent, je passe la classe libre. En fait, je viens vraiment avec un amoureux de l'époque, ouais, ok, qui m'amène là parce que je fous pas grand chose, je zone un peu et je découvre ce milieu. J'avais fait un peu de théâtre comme ça au lycée, mais franchement, impossible pour moi. C'était même pas imaginable de devenir une artiste. C'était vraiment, c'est-à-dire que pour le coup, moi je viens de Banlieue-Nord, enfin c'est voilà.
Mais secrètement, c'était quelque chose qui vous titillait,
c'est-à-dire que secrètement, comme n'importe quelle gamine, j'ai envie de devenir Madonna, mais mais pas du tout comédienne. Non, c'est même pas. Non, pour moi, c'est absolument pas dans le champ des possibles.
D'accord.
Donc, et je découvre la scène, et là je me dis, ah ouais, non mais c'est formidable, hein, c'est formidable. Mmh. Allez, je tente, j'y vais.
Donc on s'inscrit, c'est la révélation.
On s'inscrit et j'ai pas d'argent, donc du coup je dois passer, ça c'est vachement bien à l'époque, je pense que ça existe encore, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de passer un concours qui était la classe libre pour avoir la gratuité de l'école.
Vous ne payez pas.
Parce qu'à l'époque ça coûtait déjà quand même vachement d'argent et je l'ai. Et donc du coup ça me donne l'élan pour faire cette école pendant 3 ans.
Mais en plus quand on passe le concours et qu'on l'a, c'est un coup de boost supplémentaire.
Oui, ça veut dire que peut-être je me trompe pas totalement. Voilà, donc je le fais pendant 3 ans.
Puisqu'on parle d'argent, 1995, le premier cachet.
Ouais, alors c'est rien, hein, c'est que dalle. Hein. En plus, c'est en francs, donc je crois que franchement, ça devait être 300 francs, un truc comme ça. Mais je suis folle, hystérique de joie. En plus, c'est dans un sitcom quand même, donc c'est pas comme si j'avais décroché un premier rôle dans un long métrage. Mais vraiment, je suis hystérique. C'est Seconde B, c'était à l'époque, il y avait, pour ceux qui sont de ma génération, il y avait donc 2 sitcoms importants. Il y avait Hélène et les garçons, qui vraiment n'existaient pas. Hein. C'est-à-dire que c'était un monde totalement virtuel, d'étudiants blindés de thunes, qui vivaient tous dans des chambres de 60 mètres carrés.
Qui donnaient tout sur une cafétéria.
Voilà, c'est ça. Et Seconde B, qui était un petit peu le pendant social de, pour le coup, un collège en banlieue, avec donc, pour le coup, des Arabes, des Blacks, des gens qui avaient moins de pognon, et une réalité quand même qui était plus probante que celle qu'on vivait. Et je fais ce truc, je fais la petite amie d'un des garçons, et je suis ravie. Je suis très mauvaise, mais je suis ravie de le faire. Je veux voir ça.
Je suis très mauvaise, mais je suis très ravie aussi.
Ah ouais, je suis hyper mauvaise. Hein. Mais en plus, j'ai le trac, j'ai des plaques partout. C'est génial. La première fois. Ben ouais, c'est la première fois que tout d'un coup, il y a des caméras, des trucs. Je ne connais pas du tout ce milieu. Et vraiment, je me souviens que j'arrivais au maquillage, je suis déjà hyper tendue. Donc j'ai des plaques rouges, violettes même partout. Et vraiment, la maquilleuse me dit, je suis bleue. Ouais, vraiment. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mais ça reste maintenant un très très bon souvenir.
Premier cachet. 1997, rencontre avec quelqu'un, Franck Tapiro.
Ah ouais, alors ça, génial. Alors ça, si des jeunes acteurs nous écoutent, super. Ça, j'ai la chance de faire une pub pour le tourisme israélien à l'époque. Et on est plein d'acteurs, j'ai pas grand-chose à faire. Mais tout d'un coup, je me fais accoster par un type. On me dit, ok, le mec me drague. Pas du tout. Il me dit, dis donc, j'aime beaucoup votre voix. Et je me dis, bon, d'accord, il me drague vraiment.
D'accord, il drague.
Et en fait, absolument pas. Il me dit, est-ce que ça te tenterait de faire des voix off pour des pubs à la radio et tout? Je dis, bah oui, bien sûr. Je sais pas quel âge j'ai, mais je me dis, de toute façon, tout est bon pour que je me fasse un petit peu d'argent. Et il va me rappeler effectivement, et c'est grâce à lui que pendant franchement une quinzaine d'années, je vais faire beaucoup, beaucoup de voix off de radio, ce qui va me permettre de gagner très bien ma vie sans devoir cachetonner. Et du coup, de continuer à faire ce métier sans être obligée d'un moment donné de retourner chez moi, chez mes parents. Parce que voilà, il faut le dire, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la chance d'être Guillaume Canet je sais pas moi, n'importe quel autre acteur qui a eu de la chance tout de suite de trouver des très jolis rôles à 20 piges. Moi, ça a commencé vraiment, j'ai commencé vraiment à gagner ma vie grâce à ce métier vers 33 ans. Donc il faut tenir. Et ça m'a permis vraiment, ça m'a changé la vie.
Donc, ouais. Monsieur Tapiro, merci.
Ah, bah alors, Franck Tapiro, oui. Qui, entre-temps, est devenu, enfin, plein de choses, d'ailleurs. Je crois qu'il avait été conseiller de Sarkozy. Enfin,
ah,
il
oui,
plein de... Ouais, ouais, ouais. Grâce à lui, grâce à cette rencontre, j'ai pu continuer à faire ce métier.
Ça a pu se faire. Ouais. Une autre rencontre, c'est en 2006. Avec Dany Boon.
Bah oui. Mmh. Bon bah là, ça change un peu la donne. C'est-à-dire que Dany cherche une comédienne qui est capable de prendre l'accent ch'ti. Il veut un petit minois, il veut une petite nana, ouais, un peu sympa. Et il tient absolument à ce que cette fille vienne du Nord, parce que il y a un truc un peu patriotique.
Bien
il
fier,
veut, ouais, il veut, région, il veut que ce soit une comédienne que... qui ait vécu un peu au même endroit que lui. Mmh. Et il voit vraiment tout Paris et aucune comédienne ne sait prendre cet accent ch'ti. Et moi, j'ai une copine qui va au casting. Et qui me dit, bon, c'est l'enfer, moi je sais pas comment faire ce truc. Et moi j'avais eu une nounou picarde et donc je la coach un petit peu. Elle y va, c'est un ratage total et elle parle de moi au casting. Et ils sont vraiment, ils sont mal quoi, c'est-à-dire qu'ils se trouvent pas. Donc il lui dit, ouais, ok, je vais la voir. C'est Gérard Montlévrier. Et il me voit, j'arrive, je mens sur tout. C'était vraiment, je rencontre Dany, je dis évidemment, je viens du Nord, alors que pas du tout, je viens de Senlis dans l'Oise.
C'est un peu au Nord. Hein,
ouais, c'est un peu au Nord. Je baratine sur tout, il est absolument dupe de rien. Il me fait faire 2-3 pages de texte, il me dit ok, d'accord, c'est l'accent picard que tu es en train de me faire, c'est pas du tout l'accent ch'ti. Et je lui dis, ah, si, quand même, je te trouve un peu dur. Mais on s'entend hyper bien et il me rappelle le lendemain et il m'annonce que je fais ce film et je suis ravie.
Et puis c'est le début de l'aventure, bienvenue chez les
ch'tis. Ça, on ne le sait pas. Oui, parce que vraiment, on fait ce
sans
film.
Savoir,
ah ouais, on fait ce film.
Il y en a d'autres qui ont refusé certains rôles dans ce film.
Mais c'est fou, ouais, cette histoire, elle est folle.
Bah ouais.
D'ailleurs, c'est Daniel Auteuil qui a quand même refusé les ch'tis et qui a refusé Intouchables. Donc, qui malheureusement, bon, n'a pas le pif. Hein.
Ouais, mm-hmm. Non, mais comme on dit, hein, bête comme Daniel Auteuil dans le métier. Hein. C'est cruel, mais.
Non, mais c'est vrai que ça change la donne. Et puis c'est lui qui m'a. Enfin, c'était une expérience géniale. Moi, j'ai adoré faire ça.
Et en avril 2019, vous venez sur France Inter pour parler de Chamboultou.
Ouais,
le
et ça,
film
ça change.
D'Éric Lalaine, ouais, sorti mercredi dernier avec encore un démarrage de folie sur les chapeaux de roue. Alors, je vais essayer de rapidement résumer l'histoire. Vous me dites après si ça vous convient, d'accord?
Allez-y.
Béatrice a un mari sexy, sympa, drôle et riche qui s'appelle Fred. Suite à un accident de scooter, il devient aveugle et simplet. Béatrice s'occupe de lui comme d'un enfant. Au bout de 5 ans, Béatrice écrit un livre sur son histoire depuis l'accident de Fred. En vacances à Biarritz avec tous ses amis, elle fait lire son ouvrage où chacun est mentionné. Problème, les descriptions des amis en question ne leur, pour la plupart, conviennent pas, mais pas du tout. Règlement de compte, quiproquo, jalousie, trahison, pleurs, mais aussi rire, amitié et amour sous le soleil et le vent du Pays Basque. C'est un peu tout ça, Chamboultou.
C'est vachement bien.
On
une
y est.
Belle petite performance. On est pas mal.
On est pas mal.
On est pas mal du
qu'est-ce
tout.
Qu'est-ce qui manque?
Alors, qu'est-ce qui manquerait? Oh là là, alors attendez, parce que j'ai bu...
C'est joli cette petite voix.
Il a dit simplet.
Il a dit simplet, alors que José Garcia n'est pas simplet. Non, il y a un personnage qui est génial, celui qu'incarne José, c'est que tout d'un coup... D'abord, c'est une histoire vraie. Ça, vous ne l'avez pas dit. Mm-hmm. C'est quand même tiré d'une histoire vraie.
On va revenir dessus. On
ouais,
va revenir dessus.
Et cet homme a eu donc cet accident. Il sort d'un coma, il est aveugle. Et ce n'est pas simplet, c'est-à-dire qu'il n'a plus de filtre. Donc tout d'un coup, voilà. Il est comme un enfant. C'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'il pense, qu'il ressent. Ce qu'il ne voit pas, donc ouais, c'est ça. Et puis il est insatiable, c'est-à-dire qu'il a cette. Comment on appelle ça satiété. Il a toujours faim, le gars.
Faim, ouais.
Toujours, toujours,
la
toujours.
Boulimie.
Ouais, c'est ça, il a l'impression de ne pas être nourri.
Mais pas n'importe quelle nourriture. Il veut des trucs gras, il veut des trucs sucrés.
Bah,
parce que quand sa femme va lui acheter des graines ou des choses bio, il refuse. Il dit que c'est dégueulasse. D'ailleurs, il y a une scène qui est formidable qui se passe dans un fast-food, un Burger King. Ouais. Il veut un Whopper et elle lui enlève tous les trucs qu'il y a à l'intérieur.
Ah, ouais.
Il commence à le manger, il fait c'est dégueulasse et à l'odeur, il sait qu'il y en a un qui est vrai à côté de lui et il saute dessus.
Bah parce qu'il a développé d'autres sens.
Oui, complètement. Non, pas simplet du tout, mais c'était une façon de dire qu'il était un peu diminué. Alors dans le film, Alexandra Lamy, Béatrice, voilà, femme courage qui au bout de 5 ans, hein, partagée entre ses amis qui sont tous présents, évidemment, mais à leur manière, ses enfants qui sont évidemment là, elle a besoin de s'en occuper, et son mari qu'elle a gardé à côté d'elle. Elle a envie de dire merci à toute sa bande d'amis. Et voilà, c'est pour ça qu'elle écrit ce livre. Donc on l'a dit, c'était une histoire vraie. Alors les amis ont du relief, hein. Il y a votre mari, Michael Youn, total obsédé. Mehdi Sadoun, qui est
infidèle.
Un petit peu premier degré. Michel Villermoz.
Qui n'a jamais lu un bouquin.
Un petit peu coincé, Michel Villermoz. Olivia Cotte, la vraie copine de Béatrice. Il y a Valérie, Ludivine de Chastenay, qui n'aime pas trop qu'on parle d'elle, mais est-ce vraiment pour les bonnes raisons?
Elle balance aussi des trucs sur notre vie privée qu'on n'a peut-être pas envie que ça se sache.
Par exemple?
Bah, plein de trucs.
Par exemple?
Bah, par exemple, j'ai peut-être pas envie que le monde entier sache que le mercredi après-midi, je vais à l'aquabike.
En termes de scoop, on n'est quand même pas sur du Wikileaks, hein.
Ils sont au courant, Mediapart ou pas?
formidable. Mais tout le film est comme ça, émaillé de.
Non, mais ce qui est génial, c'est que, parce que c'est parti d'un fait quand même qui est génial. Donc cette femme existe, ce couple existe. Ouais. Il aurait réellement arrivé ce drame, d'autant qu'elle élève quand même 5 enfants, cette Barbara. Ça lui arrive, elle a 37 ans. Et elle va, au bout d'un moment, après 5 ans, quand même d'une longue période extrêmement difficile pour elle et ses enfants.
Croix quand même,
ouais. Elle va avoir l'envie de témoigner, ok, sur ce qui lui est arrivé, sur tout ça. Et effectivement, elle sort le bouquin, bon, voilà, qui est lu par pas énormément de gens, mais son entourage. Et Eric Lavenne, qui est le réalisateur, connaît cette femme. Il lit le livre, mais bon, voilà, il est en compassion évidemment avec ce qui lui est arrivé. Mais ce qui surtout l'a interloqué, c'est que il a rencontré des gens qui avaient lu, des amis communs qui avaient lu le bouquin, et ses amis sont venus tous lui dire. T'as lu le bouquin de Barbara ? Et il fait « Ouais, j'ai lu. » Non, mais t'as vu ce qu'elle raconte à un moment donné ? Donc, ouais, non, quoi. On est d'accord que le moment sur la recette de la pâte à crêpes, c'est dégueulasse qu'elle dit.
On va revenir sur la pâte à crêpes.
Et en fait, ce qu'il a interloqué, c'est les réactions extrêmement égocentrées des gens qui ont lu le bouquin.
Hyper personnel et égoïste.
C'est fou. C'est-à-dire que la nana raconte quand même un truc atroce et ils sont uniquement sur eux. Et ça, ils se disent, tiens, il y a un sujet de film.
Oui, il y a vous. Alors, on vient en parler. L'ami proche, Anne-Marie Vin.
Allô ? Écoute-moi bien, je suis à l'hôpital. Frédéric, je lui ai pris la main, il a réagi. Il s'est réveillé. Je l'ai réveillé.
Arrête.
T'en parles pas aux autres ?
Bah non, évidemment, on va laisser Béatrice gérer, mais...
Mais non, bébé, écoute, elle a autre chose à faire. Non, c'est mieux que ce soit moi qui les appelle.
Elle, c'est Nadia. Dans le livre, elle s'appelle Natacha. Elle a été super, super présente.
Super
trop présente.
Comment on fait pour trouver le juste milieu pour pas verser dans la caricature ou le manque d'intention? Parce que c'est vrai qu'elle est oppressante. Voilà, c'est ce qu'il dit.
Ouais, mais c'est toujours difficile quand on parle de caricature parce que moi je trouve que dans la vie, on a affaire à c'est beaucoup plus fort souvent que ce qu'il y a.
Oui, mais comment on fait justement pour pas.
Bah, c'est juste une question de sincérité, de. Moi, je pense qu'il faut oser justement y aller parce que vraiment, moi, des Nadia dans ma vie, j'en connais pas 50, j'en ai pas autour de, mais j'en ai qui sont beaucoup plus, qui vont vachement plus loin que ça.
Ah ouais. Des comédiennes.
Mais il y a des nanas ou des mecs qui prennent énormément de place, qui à chaque fois qu'on leur raconte quelque chose d'assez douloureux, qui disent ah ouais, bah, c'est aussi. Comme moi, ouais, tu sais, ça. Moi j'ai eu ça, mais en pire que toi.
Moi plus, bien sûr.
Qui challengent le malheur. C'est des challengers du malheur. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une anecdote qui est pire que la tienne. Et puis surtout, elle a un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est que cette fille n'est pas foncièrement mauvaise. Elle est extrêmement malheureuse. Elle est pas regardée. Elle est seule, donc elle veut exister. Elle veut exister partout. Et elle ne se rend plus compte à quel point...
Elle peut être fatigante.
Ouais, elle est ultra fatigante.
Et avec Nadia, on est à la limite de la parano, vous le mentionniez tout à l'heure.
Je rêve carrément. Faut que je... Attends, je te lis un passage. Hein. C'est Béa qui parle. Avant l'accident, tous les dimanches avec les enfants, c'était dîner de crêpes, Fred au fourneau et moi à la pâte. Mon petit secret pour les rendre plus légères, je remplace un verre de lait par un verre de bière. Tu te rends compte?
Oui, non quoi?
Mon petit secret?
Oui, et?
Mais c'est moi! C'est moi qui lui ai donné le truc! C'est mon petit secret, la bière dans la pâte à crêpes, c'est pas son petit secret, elle, c'est mon petit secret à moi, c'est mon truc, depuis toujours, mais tu sais très bien, c'est mon truc!
Et en même temps, c'est peut-être pas très grave, hein?
Pas très grave.
Michael Youn, votre mari, qui essaye de modérer tout ça, mais qui est réconforté parce qu'il n'est pas encore cramé qu'il est infidèle. Donc, chaque fois que vous lui parlez.
Il n'est pas encore, ouais. Alors
vous avez, évidemment.
On
évidemment,
le sait toutes.
On le sait toutes.
Mais ouais.
J'ai dit cette phrase.
On le sait toutes.
Alors, vous avez dit dans une autre émission de la chaîne que c'était super de jouer avec Alexandra Lamy.
Ouais.
Elle est hyper pro, limite, elle vous porte.
Bon, alors, c'est vraiment une amie très, très chère dans ma vie, mais c'est une partenaire absolument incroyable. C'est-à-dire que vraiment, j'aimerais vous dire du mal de cette personne, parce que c'est bien, parce que comme ça me ferait rester un petit peu dans Nadia encore un peu. Mais j'ai pas grand-chose à dire j'ai même rien à dire de négatif sur cette personne, c'est fou. C'est une partenaire assez dingue. C'est une actrice vraiment assez exceptionnelle sur un plateau, c'est une fille qui sait tout faire. Elle est disponible, elle est extrêmement généreuse, elle s'enquiert de tout le monde, de tout sur un plateau, et dans la vie aussi d'ailleurs. Et puis de toute façon, moi je trouve que en ayant eu des rapports comme ça avec des gens qui ont un fort coefficient sympathie auprès du public, je trouve que le public ne se plante jamais. jamais. C'est-à-dire que enfin, c'est rarissime. Peut-être qu'il y a des contre-exemples, hein. Mais par exemple, Dany, c'est un mec que j'ai vu quand même. C'est vraiment un des seuls acteurs que j'ai vu être sur scène pendant 2 heures et après rester 3-4 heures dans la rue pour faire des selfies, faire des photos. Il y a très peu de gens qui ont le courage tous les soirs de faire ça.
Isabelle Nanty, sincèrement. Comme ça aussi.
Ouais, mais ça m'étonne pas. Isabelle Nanty, c'était ma prof en plus chez Florent. Je l'adore.
Oh,
mais ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que les gens se plantent pas avec ça. Il y a une vraie générosité. Il y a un truc qui fait même pas partie du taf. Alexandra a un vrai plaisir de rencontrer les gens pour lesquels elle fait ce métier aussi.
Alors Éric Laven, le réalisateur, dit que le tournage à Biarritz, où tout le monde s'est retrouvé dans le même hôtel pendant 5 semaines, ça a grandement facilité la cohésion d'équipe. Mais c'est pas aussi un peu oppressant d'être toujours tous ensemble pendant 5 semaines?
Non, moi c'est un des trucs que j'adore dans ce métier. Ouais. D'un coup, on retrouve un truc de colo.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que voilà, on est tous des quadras, mais on vit tout d'un. Ouais, pendant quelques temps, on revit comme si on avait 14 ans. C'est génial quand même ce que ce métier offre. Et puis, ça permet aussi parce que là, moi, nous, on se connaissait très bien avec Alexandra, Éric Laven, Mehdi Sadoun, j'avais fait un film, mais les autres, moi, je les connaissais pas. Et c'est vrai que tout d'un coup, quand on se prend des petites murges ensemble, ça nous rapproche quand même. Y a pas... C'est-à-dire que quand on partage le même vomi, tout d'un coup, oui, j'ai dit vomi.
Ça crée des liens.
Hein. Bien.
Avec du vomi, fait des amis. Ouais. Oh, bah voilà, service public, hein, si on peut rendre service, les amis. Chamboule tout, allez
ça
le voir.
Tout.
Allez
ah,
le voir.
Ça, je vais aller le voir ce
allez
soir.
Ah, mais j'espère bien que vous allez le voir ce soir. Un dimanche soir, c'est parfait pour un dimanche soir.
C'est parfait.
Les dates de Corinne, c'est maintenant, si vous le voulez bien. On commence, vous avez 14 ans, c'est la troupe de l'atelier du possible.
Mm-hmm.
Alors, pour rentrer là, qu'est-ce que vous découvrez?
Alors déjà, la petite anecdote, c'est dans mon village de Rognes, j'aime à dire que je suis une rognasse, je viens du sud-est de la France, et donc j'arrive dans vraiment... j'étais déjà, depuis l'âge de 8-9 ans, fascinée par le cinéma, les costumes, par... on parlait de Lorraine Bacall tout à l'heure, voilà, ça faisait partie, j'avais des petites fiches dans un classeur que je collectionnais, tout ça. Et donc j'arrive, il y a une annonce pour cette troupe de théâtre, l'Atelier du Possible. Évidemment, je suis au collège en même temps, mais je dis à mes parents, je veux absolument faire du théâtre, etc. Et puis, je suis prise dans cette troupe, on fait du théâtre de très tôt. Vraiment, on va de village en village dès qu'il y a les vacances scolaires, etc. Et donc, ça a été, un peu ce que tu disais tout à l'heure, toi, par rapport au cours Florent, la révélation de, oui, je veux faire de la scène, je veux interpréter des rôles, je veux passer ma vie à rester une enfant, parce qu'il y a beaucoup de ça dans nos métiers, en fait.
C'est donc, ça, voilà. Vous reconnaissez aussi dans
Oui, complètement. À la raison, c'est ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous le disiez, dans le rythme aussi qu'on a, c'est-à-dire que ça nous offre...
Ah ouais.
Des privilèges qui sont fous. On ne fait jamais la même chose, on ne rencontre jamais les mêmes gens. Il y a un champ des possibles qui est génial. Enfin, c'est-à-dire, moi, je ne me suis jamais lassée de toutes les rencontres, qu'elles soient même des fois mauvaises ou qu'elles soient dures, quoi.
Ouais.
Mais c'est hyper intéressant de jamais savoir ce qu'on va faire dans 2 mois.
Et justement, même en grandissant, entre guillemets, les épreuves ou les mauvaises rencontres, c'est celles-ci qui vous font cultiver l'insouciance. Parce que si on la cultive pas, de toute façon, on ne fait pas ce métier. À un moment donné, on s'arrête parce que c'est trop dur, c'est très violent quand même aussi. Donc voilà, en tout cas, moi, l'Atelier du Possible, ça a été ma première arrivée sur scène et j'étais avec un metteur en scène exceptionnel, d'une grande générosité, d'une grande... Bastien, il s'appelait. Et j'étais avec plein d'adultes aussi. Hein. Donc j'avais 14 ans, mais je jouais avec des gens de 30 ans qui étaient amateurs.
Oh, et des vieux, quoi. Ouais.
C'était...
super vieux.
Quand on a 14 ans, c'est exceptionnel.
C'est
de
hyper vieux,
génial.
Donc ouais, non, c'est vraiment... C'est un moment important dans ma vie.
Autre moment important, vous avez 17 ans, le cabaret théâtre et la chanson à Aix, en Provence. Et là, vous dites... J'ai rencontré ma voix.
Ouais, exactement, dans le sens premier du terme.
Ouais.
Bastien, un jour, me dit « prépare une chanson ». Il m'entend chanter, il me dit « tiens, mais tu sais qu'il y a un cabaret à Aix, ils font des auditions, vas-y ». Et là, je me retrouve dans ce cabaret où, en passant mon bac, etc., bah, en même temps, tous les soirs, j'allais chanter là-bas et on reprenait du Barbara, du Ferré, du Brassens, du Reggiani, du Bourvil aussi. Ça a été un déclic important
grand
aussi pour
homme.
Moi. Grand homme, puis beaucoup d'humour de second degré et une grande mélancolie à la fois. Et je travaillais avec une pianiste et un violoncelliste. Et voilà, donc ça a été mon premier tour de chant, alors que vraiment dans ma famille, c'était pas du tout le chemin qu'on m'offrait, c'était pas celui-ci, dans le sens où tout le monde me disait que j'avais une voix extrêmement métallique. Je me souviens, c'était ça le mot.
C'est vrai qu'on n'imagine pas Bourvil chanter avec une voix métallique.
Non, et elle était musicienne ou pas?
Mon instrument, c'est la voix. Mais non, après, je suis pas instrumentiste, claviériste ou non.
Mais vous aimez sur scène qu'il y ait un orchestre, qu'il y ait des musiciens. Vous n'aimez pas quand tout est produit et qu'on envoie des samples.
Alors, je tiens absolument à ce qu'on soit 6 sur scène, à ce que tout soit joué en live. C'est le côté organique du live qui me plaît. Après, ça m'arrive aussi de faire des formules là avec 2 danseurs et mon producteur qui envoie aux platines derrière et qui est une formule très 80s justement. La danse, elle est importante aussi dans, pour moi, dans ma vie et dans mes spectacles. Donc forcément, je m'y retrouve aussi. Mais oui, le live, les musiciens, l'énergie de la troupe aussi quand on parle en tournée, etc. Moi, c'est important.
Là, en passant en 2017-2018, c'est la finalisation de l'album et la signature. Signature chez Polydor. Ouais. Ça va être un moment énorme. C'est comme quand on touche son premier cachet. Ça doit être un...
Bim, ouais, c'est, bah, complètement. Et puis, je me retrouve un peu dans ton parcours parce que, moi, pareil, ça a été un long chemin. Je suis arrivée à Paris, j'avais absolument pas d'argent. Mon premier métier, voilà, j'étais serveuse d'abord à Marseille, d'ailleurs au Petit Nice, avec Richard Karamanolis, qui était championne d'Europe de boxe. Et je me suis retrouvée à 19 ans, vraiment serveuse dans un bar un peu de mafieux, quand même, faut le dire. Et puis après, je suis montée à Paris, pleine de rêves, etc. Mais j'ai passé des années à faire des petits boulots aussi, tout en écrivant, tout en faisant du théâtre, etc. Mais ça a été long. Et donc, oui, la signature avec Polydor, clairement, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Parce que voilà, c'est un peu... C'est une forme de reconnaissance de tout le chemin qu'on a fait et du métier. Et, ouais.
Et en novembre 2017, il y a un concert au Trianon. Mmh. Et c'est complet, c'est blindé, c'est une énergie que vous recevez en pleine figure, une énergie dingue.
Ouais, c'est électrique. Je suis sortie de scène, j'ai pleuré pendant une demi-heure. Mmh. Mais sans contrôler du tout. Il y a tout qui est sorti, je me suis lâchée. Il y a tout qui a lâché.
Toutes les tensions, celles avant le concert, celles pendant le concert. Les tensions,
c'était hyper beau. Enfin, l'électricité, les gens, ce qu'ils vous donnent, en fait. Ce que le public... Et d'un coup, on prend conscience du chemin et on prend conscience des vertus de la musique aussi, qui a quand même un langage fabuleux pour partager, transcender, pour lâcher prise. En tout cas, en plus, moi, dans la musique que je fais, il y a vraiment ça. Et
oui,
puis, il y avait
univers.
Toute ma famille qui était là aussi. Et ça, voilà. C'est toujours ce petit truc qui paraît un peu banal parce qu'on vit tous la même chose, mais ouais, c'est toujours une vraie émotion.
Il y a vos clips aussi, qui sont formidables.
Ah, merci.
Qui sont très drôles et qui sont vachement bien réalisés.
Merci.
Et qui sont plaisants. Et c'est des petits chefs-d'œuvre. C'est des petits bijoux.
Ah, merci beaucoup.
Qu'est-ce qui réalise ces clips?
Alors, en fait, c'est Laurent Tessier et Christian Beuchet. Et je travaille toujours avec la même équipe. C'est pareil, les musiciens. Enfin, c'est vraiment une grande famille. Et j'aime travailler avec des gens, en effet, que je connais, qui vont être à l'écoute aussi de moi, mes envies, de mes idées.
Ouais, t'as un vrai point de vue de DA sur le. Ouais,
surtout.
Il fait chaud.
Ouais, il fait chaud. Ouais. Ou là, c'était une vraie
très
référence
drôle,
aussi au Rita Mitsuko,
ouais.
D'ailleurs. Et puis là, le dernier, justement, c'est une petite surprise là qui va sortir bientôt.
Ah.
Et c'est le regard d'une femme que j'ai choisi pour cette. Enfin, c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un d'autre, justement. Et je peux le dire là maintenant tout de suite. Hein, j'ai eu le droit de faire une petite révélation avec Alma Jodorowsky.
Ah, très jolie. Hyper jolie.
Ouais. Qui est sublime et qui est très talentueuse,
aussi, non
qui chante
ah ouais.
Et qui réalise aussi des clips. Et là, on a travaillé ensemble et j'ai hâte d'offrir ça et de voir ce qui va se passer.
Et là, c'est une des chansons de l'album, c'est Marche Nocturne.
Ouais.
Écoute un peu.
Un baiser sur la joue, des caresses dans le cou. Alors tu fais l'amour et c'est le garde à vous. La folie de ton jeu, elle se lit dans tes yeux. Pas besoin d'être deux pour allumer ton feu.
Pourquoi Corinne ?
Parce que j'aime la vraiment, il y a un hommage à deux femmes qui étaient mes taties en école maternelle à la cantine et qui s'appelaient Corinne. Non, mais c'est vrai. Hein. Qui s'appelaient Corinne et que j'adorais, mais vraiment. Et qui étaient, voilà, je viens d'un village, on était 2000 habitants et elles étaient toujours extrêmement bien coiffées, maquillées, manucurées et ça me fascinait. Moi, je viens d'une famille aussi, mon grand-père était agriculteur et tout, hein, donc. Et d'un coup, voilà, je voyais ces femmes, etc. Et je me disais, ah, elles sont belles. Et je sais pas, quand j'ai écrit Pourquoi, mon premier titre, Marche Nocturne, il y a quelque chose de l'ordre du glamour, de la diva, mais aussi, je m'adresse à toutes les femmes. Et on a toutes vécu ça, petites. On s'est regardées dans la glace et on a eu envie, à un moment, qu'on nous regarde. On a envie d'être sur scène, on a envie d'être une diva. Et voilà. Et c'était un peu un hommage à ça. Et je trouve que ce prénom Corinne rend hommage en fait à toutes les femmes un peu de pouvoir de pouvoir briller quand elles le veulent, en fait.
Qui est un prénom très populaire en France dans les années 70-80.
La référence, fille de ta région, c'est aussi évidemment la petite référence connotée 36-17, 36-15, qui me faisait beaucoup rire. Parce que, voilà, il y a beaucoup d'humour. Et c'est mon parcours de femme, en fait. C'est que je me suis rendu compte que l'humour était une arme imparable, que quand on se fait attaquer, quand on se prend des réflexions sur ses seins, sur son cul, sur machin, répondre avec beaucoup d'humour, ça désamorce. Et souvent, la personne en face a du mal à... Voilà. Et donc, voilà, moi, dans mes textes et tout, c'est exactement ça que je raconte. Et je joue avec ces codes-là, de la sensualité, de la sexualité, et ça m'amuse beaucoup.
Et la Corinne qu'on entend, là, c'est une allusion aussi à autre chose.
Mm-hmm. C'est le slow du dimanche.
Ouais.
C'est de ça dont vous parlez ? Oui, évidemment. Alors déjà, il faut savoir que ce titre-là, c'est une reprise d'A.S. Dragon, et qui avait fait, qui a écrit cette chanson, Natacha Lejeune, que j'aime beaucoup, et qui était un groupe plutôt un peu punk. Et moi, j'en ai fait une balade, un slow, je me la suis réappropriée comme une sorte de confession intime, alors qu'en effet, ça parle de la cocaïne,
voilà.
Et de cette poudre blanche qui, voilà. Moi, je n'ai pas eu besoin de ça dans ma vie, parce que j'ai suffisamment de folie, et je, toute seule, j'ai des élixirs en moi.
Je pense que si vous prenez quelque chose, vous explosez.
Je pense que ça peut être très grave.
Je pense que vous explosez.
Ça peut être très, très grave.
Le studio va être dégueulasse.
J'ai beaucoup de chance avec ça, hein. J'ai jamais été attirée par ça, ni eu besoin de ça, mais par contre, en effet, même le Corinne avec un seul N, c'était le mot de passe dans les années 80. Tu disais, t'es venu avec Corinne, c'était bon, est-ce que t'es venu avec de la blanche? C'est ça.
J'aurais l'air tellement bête à l'époque.
Ah ouais,
Corinne, c'est-tu Corinne?
Ah ouais, moi j'aurais cherché qui était Corinne, ouais.
Mais ma tante, elle est couchée, de quoi tu parles?
Ça, c'est ça. Il fait chaud toujours dans l'album. Oui, mais aussi jazzy, funky, tout ce qui rend joyeux, pour résumer.
Bah ouais, c'est vrai ça.
Irrésistible. Irrésistible. Alors, il y a aussi ambiance italiano, sexy, disco.
J'aime le chocolat. Oui, et quoi? Ça t'étonne? J'aime le chocolat. Le chocolat au lait. Mais surtout le chocolat noir.
Alors, j'invite à aller voir le clip. Hein.
De pourquoi?
Bah
là, vous allez avoir très très chaud, c'est sûr.
C'est bouillant, 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 bouillant. Alors, pour qui n'aime pas le chocolat, non, pas la peine. Mais là, non, très très chaud. Alors, ce titre, pourquoi avait été aussi enregistré en italien.
Tout à fait, perché. Alors, comme certaines personnes ont cru que j'avais écrit perché. Hein.
Oui.
Mais non, c'est perché.
J'en connais quelques-uns qui ont lu perché. Eh, la personne est en train de disparaître sous la console. Tu vois, Marianne, c'est humain, il n'y a pas que toi.
Exactement.
Mesdemoiselles, on vous a demandé un titre qui vous rappelait un souvenir. On espère que c'était un bon souvenir. Anne-Marie Vin, vous avez choisi. Play a box, right? Just loud enough so folks can hear us hype. See, out of nowhere. Arrested Development, People, Every Day. Ça vous rappelle
J'adore
quoi,
tout l'album. Tout l'album. Alors, ça me rappelle exactement, c'est-à-dire que je me vois, c'est carrément même un... Je peux même vous dire, je suis sur la terrasse du pavillon Le Roi Merlin chez mes parents.
Génial.
Ok. Je bosse mon bac, que j'ai rien foutu de l'année. Donc, je me dis, ok, mais j'ai 4 jours pour bosser ce truc et essayer de l'avoir, parce que de toute façon, après, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je suis avec une de mes meilleures potes et on écoute l'album d'Aristide Development en boucle. Et j'ai plein de potes qui passent comme ça et tout. C'est vraiment chouette. C'est super chouette. Et on boit genre du vieux panaché un peu pourri. Donc voilà, j'ai l'image totalement là.
Condition idéale pour réviser le bac pour l'avoir à la fin. Arrested Development.
Et j'ai mon bac.
Et fort, j'imagine.
Au rattrapage, mais je l'ai.
avec du panaché un petit peu tiède. Corinne, vous, c'est changement d'ambiance. Hein.
Quand je pense à Fernande,
ah ouais, rien à voir.
Je bande. Quand je pense à Félicie, ah ouais, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas.
C'est quel souvenir pour vous, Brassens?
Oh là là, c'est toute mon enfance et c'est vraiment... Cette chanson-là, c'était la chanson un peu interdite, soi-disant.
Ah oui.
Et voilà, moi, je me souviens dès l'âge de 5 ans où je commençais un tout petit... Et mon grand frère, j'ai deux grands frères, une grande sœur, on est une grosse fratrie. Et donc, je me souviens vraiment de la route des vacances. On partait dans le break de mon père, on faisait des kilomètres avec ma sœur qui avait un doudou qui était une couverture en laine, quand même, en plein été.
Et les images.
Ouais. Non, mais c'est ça. Et cette chanson, vraiment, hurler à tue-tête parce que ça nous faisait beaucoup rire. Et ce qui est hyper mignon, c'est à 5 ans tu comprends pas pourquoi ça te fait rire, ouais, mais tu sais que c'est un peu interdit, puis tu grandis et puis tu commences à comprendre rire. Et donc c'est très drôle. Non, c'est vraiment un beau souvenir.
Afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison, ouais, papa, ça ne se commande
comme les odeurs.
Pas.
Les odeurs, c'est fou.
Corinne Anne-Marivin, maintenant, fini la plaisanterie. On va revenir sur vos vies, mais façon inter. On va vérifier si vous avez bien la fibre de gauche. Si vous avez le cœur sur la main, on va vous intériser.
Ouh là là, intériser.
Corinne, petite fleur de la région PACA, voit le jour du côté d'Aix-en-Provence. Excellent départ dans la vie pour comprendre la misère humaine puisque plongée dedans. Son papa est architecte, un bâtisseur, ça c'est bien. Sa mère fait de la peinture sur de la soie, c'est étrange, mais ça oblige à l'apprentissage du beau. Le beau, une valeur essentielle à transmettre pour mettre du baume au cœur de ceux qui sont plongés dans l'obscurité de la souffrance économique. Tout comme le cirque qu'elle pratique et qui lui apprend les rudiments du salvateur « Ça va les petits enfants ?» qui résonne comme un cadeau aux oreilles sales de la progéniture des gens sans le sou. Mais cette enfance prometteuse destine-t-elle Corinne à devenir une femme de cœur ? Non, bien sûr que non. Tout s'arrête quand Corinne prend conscience à l'occasion d'une audition de pouvoir libérateur des planches. C'est là que la petite fille laisse place à la cagole. La chanson qui l'amène à faire la célébration du Minitel, outil mercantile et sulfureux dont on se servait à 10% pour voir les horaires des trains et à 90% pour des plans cul. La SNCF et la pornographie, les deux mamelles de l'apocalypse économique du libre-échange et de la spéculation. Tout ça pour faire un album dont elle partage la pochette avec deux caniches géants royaux dont le poil est assorti aux cheveux de la cantatrice Glitter. Deux pauvres clébards qui, en cas d'aboiement intempestif, seront sûrement coupés en deux par la démoniaque Corinne qui s'avère aussi être une redoutable pratiquante de kung-fu. Crâneuse ! Est-on mieux servi avec Anne-Marie Vin ?
Non !
On l'a cru ! Un moment ! Pas longtemps. Puis on a déchanté. Enfance passée dans l'Oise, à la lisière du Nord. Elle avait tout pour devenir un gyrophare dans la nuit de l'angoisse culturelle de cette région meurtrie. Mais cette enfance passée en région martyre, fait-elle pourtant d'Anne-Marie Vin une femme de cœur ?
Non !
Bien sûr que non ! Le problème, c'est que, comme Corinne, elle est attirée par les lumières du showbiz. Marie-Vin est attirée par le showbiz. La comédie, elle intègre le cours Florent sous les ordres d'Isabelle Nanty, haha, Isabelle Nanty, personnage diabolique, faite de vice et de dépouille de vertu, qui entraîne sans vergogne ses élèves vers le gouffre de la décadence. Et c'est ce qui arrive avec Anne-Marie Vin, qui kiffe sa descente aux enfers en enchaînant les films, la bave aux lèvres et le portefeuille gonflé des entrées payées à crédit d'un peuple qui se saigne pour aller applaudir. Et elle s'en fout, vilaine. Anne-Marie Vin, Corinne, vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler des femmes de partage, mais qu'est-ce qu'on est content de vous avoir avec nous pour les 72 ans de Michel Thor. Anne, Corinne, ne changez rien.
Oh, ouais. Merci, avec le mépris.
Duran Jones, The Indications, dans vous les femmes, sur France Inter. Bon dimanche à tous.
It's still in San Diego. You can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond. by the harbor lights on Baltimore. Got nurses headed home, and the Joes of Maricopa say a man is but his wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressman in Washington
sur France Inter, c'était Duran Jones.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais, étant ouais. Sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
Douce présence également celle de Corinne pour son premier album, Un air de fête. Et il y a aussi une tournée où il y a de plus en plus de dates. La prochaine, c'est quand?
C'est le 13, au Fil 7, à Manny-le-Hong. Et après, c'est un enchaînement de dates.
Il y a le 20 avril avec le Printemps de Bourges, c'est
exactement,
ça?
Exactement.
J'ai entendu parler de Barcelone, carrément, en juin.
Barcelone-Madrid aussi. Première partie de Mathieu Chédid, ça, je suis très heureuse, à Lille.
Ça, c'est le sera les 22 et 23 mai.
Tout
première partie de... De Mathieu, de M.
Voilà.
Il y aura également Solidays le 23 juin.
Solidays, exactement.
Francophonie,
Garo ouais. Rock. Et puis, plein d'autres dates dans toutes vos régions, mais aussi quand même à la fin de cette belle tournée, l'Olympia.
Et si ça... vous vous trouvez du côté de Paris, 3 octobre, l'Olympia.
Ouais.
On sera présent au rendez-vous en tout cas.
Oui, et surtout j'espère que vous aurez mis votre plus belle tenue glitter à paillettes.
Je serai glitter de chez Glitter, c'est promis. Également avec nous Anne-Marie Vin pour le film Chamboule-tout d'Éric Leven.
Non, pardon, je dois faire c'est le parrain 3. Excusez-moi, je sais pas, l'info est mal passée.
Mal passée.
Parce que mais pas quelle comédienne. Quand elle a dit non, je me suis dit mince, qu'est-ce que j'ai dit.
C'est le parrain 3 ou
pas du tout, c'est le parrain 4 dans lequel je joue et dans lequel j'interprète le parrain. Évidemment.
Tellement mystérieuse. C'est incroyable. Chamboule-tout, Éric Leven, sorti il y a 4 jours. Avec entre autres, bien sûr, Alexandra Lamy, José Garcia, Michael Youn, Mehdi Sadoun, Michel Villermoz ou encore Olivia Cotte. Des femmes merveilleuses chaque semaine. Alvar Algu nous brosse le portrait d'une femme quasi inconnue et c'est dommage. Elle était exceptionnelle. Il était une femme, c'est le titre de la chronique et aujourd'hui le portrait de Helen Hunt Jackson. On vous écoute, Alberto.
Alors, on part pour les États-Unis. L'histoire d'Helen Hunt Jackson, une des avocates les plus ardentes du droit des Indiens, des Amérindiens, est indissociable de l'histoire de l'émancipation des femmes aux États-Unis. Ainsi, Helen Hunt Jackson, née en 1830, est contemporaine, entre autres, de Abigail Scott Duniway, la mère du suffrage suffrage des femmes, et aussi Lucy Parsons, ancienne esclave, anarchiste, qui fonda le journal Freedom, dénonçant notamment le lynchage des Afro-Américains et défendant la cause des femmes et celle des minorités ethniques. Donc, il était une femme, Helen Hunt Jackson, fille de pasteur, elle naît en 1830, je l'ai dit, dans le Massachusetts, et devient écrivain dans des conditions difficiles, puisqu'elle perd successivement ses deux jeunes enfants et son premier mari. Néanmoins, ses premiers romans rencontrent le succès. Et à Boston, en 1879, alors que, mue par la curiosité, elle est venue écouter une conférence donnée par Standing Bear, c'est le chef de la tribu des Poncas, c'est un personnage magnifique, elle est bouleversée par les propos poignants de cet homme qui décrit le sort inique et les atrocités subies par les siens, spoliés, décimés après leur expulsion dans leur réserve du Nebraska. Dès lors, Helen n'aura de cesse de dénoncer les traitements inhumains infligés aux tribus indiennes dans tous les États-Unis, se fondant sur des enquêtes accablantes pour les autorités, à commencer par les agents corrompus du Bureau des Affaires indiennes. Elle fait circuler des pétitions, collecte des fonds, alerte l'opinion en envoyant des lettres à la presse. En 1881, elle publie « Un siècle de déshonneur ». C'est un livre très important, c'est le premier qui dénonce la dépossession des Indiens de leurs terres, de leur liberté. Un exemplaire est adressé à chaque membre du Congrès et sur la couverture, une citation de Benjamin Franklin en rouge vif « Regardez vos mains, elles sont tachées du sang de vos parents ». En Californie du Sud, Helen découvre le sort honteux fait aux Indiens, supposés protéger les tribus, les fameuses missions, qui étaient au nombre de 15 000 en 1852. Elles ne sont plus que 400 en 1882. Année où Helen Hunt parvient à se faire nommer, c'est exceptionnel, c'est la seule femme commissaire aux affaires indiennes de Californie. À ce poste, elle lance une politique de rachat des terres et une proposition de loi concrétisant ses recommandations est adoptée par le Sénat aux États-Unis, mais repoussée par la Chambre des représentants. En 1884, s'inspirant de la case de l'oncle tome de son amie Harriet Stowe, elle publie Ramona. Ce roman relate le combat d'une jeune métisse et de son mari pour la défense de leurs terres et de leur culture. Helen dit alors « Si je peux faire pour les Indiens le centième de ce que Mrs. Stowe a fait pour les Noirs, je serai satisfaite. » Et ce livre est un best-seller qui sensibilise un immense public à la cause des Indiens. De retour en Californie, alors qu'elle songe à une version d'un livre pour enfants, Helen meurt des suites d'un cancer en 1885. Ce livre, ce bouquin, Ramona, il a connu au moins 300 rééditions. C'est une des pièces, ça a été adapté, une des plus jouées aux États-Unis. Il y a plusieurs films. Le dernier texte écrit par Helen Hunt Jackson s'est adressé au président des États-Unis de l'époque, Stephen Grover Cleveland. Elle lui dit « De mon lit de mort, je vous demande de lire mon siècle de déshonneur. Je meurs plus heureuse car je suis sûre que vos mains sont destinées à porter le premier coup sérieux au fardeau infamant de notre pays et à écrire les torts faits au peuple indien. » Total respect pour Helen Hunt Jackson.
Bravo, et vous pouvez retrouver tous les portraits d'Alberto sur ces femmes exceptionnelles sur le site Il était une femme.
Vous les femmes...
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Anne-Marie Vin, Corinne, vous aviez entendu parler de cette femme?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Eh bien, le but est atteint.
Ouais, 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 c'est super.
Eh bien, vous avez été super également. Vous méritez bien des petits cadeaux, mesdemoiselles.
Ah, qu'est-ce qu'on va avoir?
Oui, ben, c'est Alberto.
Alors,
qui
pour
s'en
vous, Corinne, une BD de Hélène Brulaire, une auteure qu'on aime bien, qu'on a reçue ici, d'ailleurs, à vos places. Elle était la co-auteure du Zizi sexuel avec Zep. Et ça s'appelle Tout ira bien, ma chérie. C'est oh, chez Marabulle. C'est les éditions Marabout, pardon, ça fait du bruit. C'est Alice accepte d'héberger ses parents, une cohabitation qui vire à l'enfer au thriller psychologique, du sang, de l'amour et de l'encre. Pour vous, Anne-Marie Vin, vous n'en avez pas besoin, mais je vous l'offre parce qu'il est très intéressant. La révolution féministe, la lutte pour la libération des femmes, 1966-1988, c'est un document énorme de deux historiennes américaines. C'est chez Hugo Image.
Trop contente.
Ouais, c'est voilà. Trop bien.
Distribution de cadeaux.
Vous les avez bien mérités.
Oh, merci. Wow.
C'est la fin de Vous les femmes, les amis. Aujourd'hui, nos brillantes invitées étaient Corinne, premier album, un air de fête, un album Polydor Universal sorti le 16 novembre dernier. Corinne en tournée, toutes les dates sur le site de l'émission. Anne-Marie Vin est également présente pour le film Chamboultou et probablement
le Parrain 4,
évidemment, à venir, d'Éric Lavenne.
C'était le 3 tout à l'heure. Hein.
Sorti il y a 4 jours avec entre autres Alexandra Lamy, José Garcia, Michael Youn, Mehdi Sadoun, Michel Villermoz, encore Olivia Cotte. Merci Albert Algou, merci Alberto.
À bientôt.
À la réalisation de cette émission, Marie-Annick Rimbaud, attachée de production Christine Kern, à la technique Kevin Pelot, programmation musicale. Thierry Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront deux sœurs, Julie et Camille Berthelet et Véronique de Vigry. Au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter, les amis. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h57.
Et merci, c'était bravo, super. J'ai adoré,
merci,
moi.
Merci beaucoup. Il faudra revenir pour votre duo à toutes les deux.
Ah ben, on va revenir. Là, dans 6 mois, on est prête. Hein.
Ouais.
Eh ben, nous aussi. Chiche.
Chiche.
Okay. Ok, rendez-vous dans 6 mois.
C'est bien, ça donne pas un bon challenge.